suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VO. Au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Le Tchad accuse les militaires centrafricains d'avoir tué hier un soldat du Tchad en attaquant un poste sur son territoire et d'en avoir enlevé et exécuté 5 autres et assure, je cite, que ce crime de guerre ne restera pas impuni. La République centrafricaine accuse régulièrement son voisin du Nord de soutenir des groupes armés rebelles centrafricains à partir de son territoire. Les forces armées centrafricaines ont attaqué dimanche matin le poste avancé de Sourou en territoire tchadien, tué un soldat tchadien, en ont blessé 5 et 5 autres ont été enlevés pour être ensuite exécutés à Mbang, du côté centrafricain de la frontière, affirme le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mahamad Zen, dans un communiqué. Les dirigeants de la CDAO suspendent le Mali des institutions communes après un double coup d'État militaire qu'ils ont condamné tout en se gardant d'autres sanctions à l'issue de leur sommet hier à Accra au Ghana. Nous aurons un compte-rendu de Jean-Roger Bion. Selon des sources sécuritaires et locales, au moins 4 personnes, dont 2 supplétifs ou VDP, des forces de sécurité burkinabées, ont été tuées hier dans 2 attaques distinctes perpétrées par des hommes armés non identifiés dans le nord du Burkina Faso. Ces violences sont imputées généralement à des djihadistes présumés. L'armée sénégalaise a mené hier des opérations et des bombardements en Casamance, théâtre d'une des plus vieilles rébellions africaines en activité, selon un porte-parole de l'armée et un témoin. Les bombardements visaient des positions du chef rebelle César Atout Badiat, à la tête d'une des factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance, ont dit des médias sénégalais. Au Nigeria, un grand nombre d'enfants ont été kidnappés par des hommes armés dans une école coranique dans le centre-nord, où les enlèvements de masse contre rançon se multiplient, selon les autorités et des habitants hier. D'autre part, la tension était vive hier dans le sud-est du Nigeria, où un homme politique influent a été assassiné au lendemain d'une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés qui a coûté la vie à 2 militaires de l'armée de l'air. Cette ancienne région séparatiste commémore la guerre du Biafra qui a fait plus d'un million de morts dans les années 1960. L'éruption du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo, MSF craint une flambée de choléra et appelle à une aide immédiate. Michel Joseph fera le point. Un célèbre juge algérien, Saadine Merzoug, suspendu depuis décembre 2019 pour ses prises de position en faveur du mouvement pro-démocratie du Hirak, a été radié hier du corps des magistrats, selon des sources judiciaires. Au Soudan, la procureure générale sortante de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a entamé hier sa première visite au Darfour, région ravagée par 2 décennies de guerre civile et faisant l'objet d'une enquête internationale et d'un mandat d'arrêt international contre le président déchu Omar el-Béchir pour notamment génocide. En Afrique du Sud, pays le plus touché du continent par le COVID-19, avec 1,65 million de cas et 56 363 morts, le président Cyril Ramaphosa a annoncé hier soir un retour à des mesures plus strictes contre la pandémie, alors que le pays tout entier est sous la menace imminente d'une troisième vague qui a déjà touché 4 des 9 provinces du pays, dont celle qui englobe Johannesburg ainsi que la capitale Pretoria, a-t-il dit. En Israël, le héros de la droite radicale, Naftali Bennett, en apportant hier son soutien au chef de l'opposition, a ouvert la voie à la formation d'un gouvernement du changement qui pourrait faire tomber le premier ministre Benjamin Netanyahu. Eric Manirakidza fera le point. Le président américain Joe Biden promet de dire à son homologue russe Vladimir Poutine lors de leur premier sommet le 16 juin en Suisse que les États-Unis ne laisseraient pas la Russie violer les droits humains. Il l'a dit hier dans un discours à la veille du mémorial d'El Jour. La suite de nos informations, en République démocratique du Congo, MSF, Médecins sans frontières, a dit dimanche craindre une flambée de choléra dans les sites de déplacés qui ont fui le volcan Nyiragongo. Dans la région de Goma, l'organisation a appelé à leur fournir une assistance immédiate. Le point avec Michel Joseph.
La chef de mission MSF en RDC, basée à Goma, Magali Rudo, a mis en garde contre une catastrophe humanitaire. Le risque est élevé dans cette zone où le choléra est déjà endémique. Les besoins sont urgents et nombreux. Nourriture, abri temporaire, aide médicale. Cette crise demande une assistance et une mobilisation immédiate, a relevé Madame Rudo. La question de l'accès à l'eau courante s'est tout de suite posée après la destruction d'une station d'épuration alimentant une grande partie de la ville de Goma. La question de centaines d'enfants isolés, séparés de leurs parents dans leur fuite, est aussi une priorité des humanitaires. L'ONU, notamment par sa mission dans le pays, MONUSCO, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, ONG et diverses organisations internationales sont présentes en nombre à Goma, capitale d'un Nord-Kivu meurtri par 3 décennies de violence des groupes armés et où le besoin humanitaire sont importants. Ces organisations se sont rapidement activées pour venir en aide aux sinistrés de l'éruption du 22 mai, estimée à au moins 9000 personnes après la destruction de centaines d'habitations par les coulées de lave dans les faubourgs nord de Goma. La MONUSCO a par ailleurs engagé ses moyens aériens pour suivre l'activité du volcan.
Les chefs d'État ouest-africains réunis lors d'un sommet régional extraordinaire décident de suspendre le Mali de leurs institutions communes en réponse au récent double putsch des militaires maliens. Le sommet de la CDAO s'est tenu hier à Accra, au Ghana. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Après de longues discussions, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de suspendre le Mali des institutions de la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, et appellent à la nomination immédiate d'un premier ministre issu de la société civile, selon le communiqué publié à l'issue de leur rencontre. À la tête de la junte qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020, Assimi Goïta a contraint la semaine dernière à la démission le président de transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane avant de se faire désigner président par la Cour constitutionnelle malienne. Ce coup de force le place en porte-à-faux avec les membres de la CDAO qui ont de nouveau exigé dimanche à l'issue d'une réunion dans la capitale du Ghana, Accra, que le Mali respecte son engagement de procéder à une transition devant s'achever en février 2022 par une élection présidentielle. Les pays de l'organisation avaient ordonné la fermeture des frontières terrestres avec le Mali après le coup d'État l'an dernier, provoquant une chute de 30% des importations du pays avant que les sanctions ne soient levées en octobre. Dans un entretien publié par le journal du dimanche, le président français Emmanuel Macron a de son côté brandit la menace d'un retrait des 5100 soldats français de l'opération Barkhane, disant ne pas vouloir rester aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition.
Politique israélienne, le responsable d'extrême droite, Naftali Bennett, a apporté dimanche son soutien crucial à un gouvernement de changement. La décision de Naftali Bennett aura pour conséquence immédiate d'infliger au premier ministre Benjamin Netanyahu sa première défaite électorale depuis 1999. Les détails avec Eric Manirakiza.
Yair Lapid, dirigeant du parti centriste Yesh Atid, qui a terminé deuxième derrière le Likoud de Benjamin Netanyahu lors d'un scrutin national le 23 mars, a jusqu'à mercredi pour annoncer un nouveau gouvernement conformément à l'échéance fixée par le président israélien. Ses chances reposent en grande partie sur Naftali Bennett, ancien membre du cabinet de sécurité et figure de la droite nationaliste, dont les 6 sièges du parti Amina sur les 120 que compte le Parlement suffisent à lui donner le statut de faiseur de roi. Dans le cadre d'un éventuel accord de partage du pouvoir, Naftali Bennett, 49 ans, remplacerait en tant que Premier ministre Benjamin Netanyahou, âgé de 71 ans, et céderait plus tard la place au centriste Yair Lapid en vertu d'un système de rotation. Répondant à la télévision à ces annonces, Benjamin Netanyahou a accusé Naftali Bennett d'avoir commis la fraude du siècle en citant ses promesses passées de ne pas s'allier à Yair Lapid. Israël a organisé depuis avril 2019 4 élections qui se sont terminées sans vainqueur clair et ont laissé Benjamin Netanyahou et ses rivaux en deçà d'une majorité parlementaire, le patron du Likoud restant en fonction à la tête d'un gouvernement intérimaire.
La Minute Écho, Nathalie Barge.
La République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international ont conclu un accord préliminaire pour un programme de réforme économique sur 3 ans. Le programme vise à créer un espace budgétaire pour les dépenses et les investissements sociaux indispensables, à renforcer le cadre monétaire et la supervision financière et à améliorer la gouvernance et la transparence économique, a précisé Mauricio Villafuerte, chef de division adjoint au département des finances publiques du FMI. Les actionnaires de la banque panafricaine Ecobank ont validé les résultats 2020 du groupe avec un bénéfice de 201 millions de dollars contre 184 millions l'année précédente. Cette hausse est due à l'augmentation de l'usage de la technologie en raison de la pandémie, indique la banque, soulignant avoir veillé à fournir un accès aux services financiers 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le PNB du groupe a progressé de 4% pour atteindre 1680 millions de dollars. L'Office togolais des recettes organise des journées portes ouvertes le 2 et 3 juin à Atakpamé, dans le centre du pays, pour sensibiliser au civisme fiscal. Sont notamment prévues des conférences, débats et des guichets de retrait de titres fonciers. Les contribuables pourront aussi bénéficier des services de délivrance d'attestation d'immatriculation, indiquait l'administration fiscale togolaise.
Merci Nathalie. Et maintenant les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Zamalek remporte la première édition de la Basketball Africa League.
Oui, les Égyptiens ont battu en finale 76 à 63 les Tunisiens de l'US Monastir. À Kigali au Rwanda, devant du beau monde, le géant égyptien a soulevé le trophée de la première édition d'une compétition qui veut prendre de l'importance en Afrique. Vainqueur de la Coupe d'Afrique en 1992, le champion d'Égypte 2019 devient le premier club à remporter la Basketball Africa League et à réaliser donc un doublé continental. Le dirigeant sénégalais Amadou Gallo Fall, président de la BAL, a remis au champion le trophée représentant un baobab.
Football de plage avec la CAN de beach soccer, le Sénégal remporte le trophée.
Les Sénégalais ont raflé à domicile sur la plage de Sali leur 6e titre de champion d'Afrique de beach soccer, 4 buts à 1 en finale contre le Mozambique. Gana Silla est le sélectionneur des Lions.
À chaque fois, on sortait dans les pays voisins pour le prendre, mais aujourd'hui, on est chez nous. C'est historique. On est champion d'Afrique, effectivement, 6 fois. En tout cas, félicitations à mes joueurs. Je suis coach depuis 2016. Depuis 2016 jusqu'à présent, on n'a pas encore de défaite en Afrique. Ça nous fait du plaisir. Et maintenant, l'objectif, il faut se focaliser maintenant sur la Coupe du Monde le plus rapidement possible. Essayer de chercher d'autres joueurs qui nous manquent quand même devant. Et après, voilà, essayer de faire le maximum possible.
Le sélectionneur des Lions du Sénégal au micro d'Amédine Sy. Le Sénégal, qualifié pour la Coupe du Monde de beach soccer, ce sera en août prochain en Russie, tout comme les Mozambicains. Le Maroc finit 3e après avoir battu l'Ouganda 5 buts à 3.
Sur le gazon, les play-offs de la Super League Pro se poursuivent au Bénin.
Tout à fait, avec la première journée de la phase retour et les Buffs du Borgou solide leader au classement. Le champion en titre conforte sa place de leader en allant battre Eternel Omnisport 2-0. Deuxième à 3 points. Esaïe est venu à bout d'Aïma 3-2 dans le match au sommet de cette 10e journée. Béké FC Nebebereke, classé 3e, chute 1-0 à Cotonou devant les requins de l'Atlantique. Et puis, les dragons de Lomé se sont repris en allant battre Damissa 3-1. Les oranges et noirs prennent du coup la 4e place.
En Côte d'Ivoire, les play-offs vont démarrer le 6 juin prochain.
Baptisée Super Division, la compétition regroupe les 4 meilleures équipes de la première phase. Un premier acte bouclé en 2 mois qui a permis aux 2 premiers de chaque poule de rejoindre cette Super Division. Ainsi, la FAD et le FC San Pedro dans la poule A, la Société Omnisports de l'Armée et la SEC Mimosa au niveau du groupe B se retrouvent pour les play-offs. Le vainqueur du tournoi sera proclamé champion de Côte d'Ivoire pour cette saison 2021.
Épilogue en revanche de la saison en Europe avec la finale de la Ligue des Champions.
Exactement, Idrissa et Chelsea et Edouard Mendy sont sur le toit de l'Europe. Une deuxième Ligue des Champions pour les Blues 9 ans après leur premier sacre. Le club de la capitale anglaise s'est imposé en finale de cette compétition contre Manchester City 1-0 dans une rencontre initialement programmée à Istanbul et délocalisée à Porto. Débarqué en janvier dernier à Stamford Bridge après son limogeage du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel gagne sa première Ligue des Champions après un échec en finale de la dernière édition contre le Bayern de Munich lorsqu'il était encore sur le banc parisien. Présent en finale pour la première fois de son histoire, Manchester City devra attendre pour inscrire son nom au palmarès.
Merci Élisée. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À l'invitation de Nana Akufo-Addo, président du Ghana et actuel président en exercice des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, plusieurs dirigeants ouest-africains se sont retrouvés au Ghana hier pour la tenue d'un sommet extraordinaire sur la situation politique au Mali. Au terme de ce sommet, il a donc été décidé de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO et surtout de maintenir la date de l'élection présidentielle au 27 février prochain comme cela avait été annoncé. Les réactions au Mali avec notre correspondant sur place, Mohamed Danioko.
Au Mali, depuis l'annonce du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique du pays, l'angoisse était le sentiment le plus partagé par les populations. La peur de voir de lourdes sanctions frapper le pays était dans tous les esprits. C'est donc avec un certain soulagement que la résolution de la CEDEAO, bien que suspendant le Mali de toutes ses instances, a été accueillie. Ici à Katamboura, journaliste.
Moi, par rapport à l'accompagnement que la CEDEAO voudrait faire à l'endroit du Mali, c'est une façon de reconnaître les réalités et d'un coup d'État, et même si de trop, mais qui est consommé. Et donc, au lieu de camper sur les principes, les chefs d'État de la CEDEAO ont dit accepter la réalité et voilà, mettre des mesures barrières, c'est-à-dire des garde-fous, quand même avec la ZENT, qui doit et au minimum accepter au maximum de gérer le pouvoir avec les civils.
Selon l'analyste politique Boubacar Salif Traoré, en décidant de suspendre le Mali des instances, la CEDEAO veut maintenir la pression sur le Mali en attendant la mise en place du prochain gouvernement qu'il a souhaité inclusif et dirigé par un civil.
Majoritairement, la CEDEAO a décidé d'accompagner la transition malienne. Mais elle a aussi mis un petit bémol qui est la suspension du Mali de ses institutions. C'est tout simplement en attendant la mise en place d'un gouvernement dirigé par un civil. En fait, la CEDEAO a compris la situation assez délicate du Mali et ne voudrait pas être ce catalyseur qui pourrait pousser le pays davantage vers un effondrement.
En ce qui concerne l'exigence de la CEDEAO de voir le gouvernement dirigé par un civil, il faut dire que cela est déjà un acquis. Avant de s'envoler pour Accra, Assimi Goïta avait rencontré la classe politique et exprimé son souhait de confier la primature au M5-RFP. Un souhait bien accueilli par le mouvement lors d'une conférence de presse.
Assimi Goïta l'a dit de façon solennelle que officiellement le poste
le premier ministre de la République du Mali revenait au M5-RFP.
La CEDEAO a exhorté les partenaires du Mali, l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne à le soutenir. Ici, l'on souhaite que la France, qui s'était montrée farouchement contre ce coup de force, soit réceptive à ce message. Boubacar Salif Traoré, analyste politique.
Ce qu'il faut souhaiter maintenant, c'est que plus largement la communauté internationale, avec précisément l'Union européenne et la France, qui reste le premier partenaire stratégique du pays, fasse la même lecture en se disant effectivement que l'acte a été posé. Le colonel Assimi Goïta est désormais le président de la transition, reconnu par la Cour constitutionnelle malienne et qui bénéficie d'un certain soutien au sein de la population malienne.
Si le médiateur Goodluck Jonathan est attendu à Bamako dans une semaine pour discuter avec l'ensemble des acteurs, la CEDEAO a exigé à ce que le calendrier électoral soit respecté, notamment la date du 27 février 2022 prévue pour l'élection présidentielle. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Retour sur l'admission de l'Allemagne d'un génocide commis contre les Herero et les Nema en Namibie pendant la période électorale. Berlin a promis plus d'un milliard d'euros en investissement dans son ancienne colonie. Un geste salué comme un premier pas vers la réconciliation après des décennies de combat pour la reconnaissance de ce crime. Pour une analyse sur l'importance historique de l'annonce allemande, Abdourahman Dia a joint à Paris l'analyste politique Athanase.
Parce que le génocide il s'accompagne toujours d'une longue période de déni. Les gens qui ont commis le génocide ne l'avouent pas, ne l'acceptent pas. Le crime est tellement monstrueux que malheureusement les présumés coupables ou les coupables n'acceptent jamais cette responsabilité morale, pénale. Et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps.
Comme vous le dites, le génocide est un crime qui est toujours difficile à reconnaître. Vous pensez que le geste de l'Allemagne va pousser à plus de débats, plus de réflexions sur les crimes commis pendant la colonisation en général en Afrique?
Même ailleurs, même dans d'autres pays. Et le geste de l'Allemagne est absolument magnifique, même s'il est tardif, même s'il est... Il arrive avec beaucoup de retard, mais c'est un geste de grandeur. Et c'est comme ça d'ailleurs que les peuples peuvent avancer, c'est de reconnaître qu'il y a eu des crimes dans le passé. Et pour autant, il ne faut pas condamner toutes les générations de tous les Allemands pendant l'éternité du temps qui nous reste à vivre. Les Allemands d'aujourd'hui ne sont absolument pas responsables des crimes de génocide qui ont été commis en Namibie contre les Herero et les Nama. Mais c'est absolument magnifique que l'Allemagne s'incline, accepte. Ça a été un processus très long, c'est passé par New York, par les Nations Unies. Il y a eu beaucoup de démarches. Mais aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle pour l'Afrique. C'est une excellente nouvelle aussi qu'en même temps, la France reconnaît ses responsabilités accablantes dans le génocide de Tutsi au Rwanda, espérant, comme je le disais tout à l'heure, que ça sera avancé la réflexion et l'acceptation du crime, des crimes qui a été commis au Burundi, et que les Burundais acceptent aussi de passer par la case justice en tribunal pénal international. Voilà, donc c'est une démarche morale, mondiale, internationale qui devrait nous rapprocher du respect de la vie chez tous les peuples du monde.
C'était l'analyste politique Athanase Karayenga.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a instruit son gouvernement d'alléger les mesures de restrictions sanitaires, se félicitant de l'amélioration de la situation dans le pays. Ainsi, depuis ce week-end, les Gabonais retrouvent une certaine liberté. L'accès aux restaurants et aux bars est désormais conditionné par la présentation d'un test PCR d'une validité de 14 jours ou d'une carte de vaccination contre le Covid-19. Les personnes vaccinées exemptées de certaines restrictions en vigueur avec la possibilité de circuler librement pendant le couvre-feu qui passe de 18h à 21h jusqu'à 5h du matin. Comment ce plan d'allègement des restrictions sanitaires est-il accueilli par les populations? Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Un vent de liberté souffle sur Libreville et le reste du pays confiné depuis plus d'un an. Mais le plan d'allègement des restrictions sanitaires est encore loin de répondre à toutes les interrogations de l'opinion publique. Clément Koumba est administrateur civil.
Pourquoi ils imposent maintenant le vaccin aux gens pour se balader au-delà des 21 heures en temps? Au début, ce n'était pas un truc obligatoire. Pourquoi le vaccin est gratuit? On fait le test du Covid-19. Qu'est-ce qui se passe?
Autant d'appréhensions nourries par la gestion d'un plan de riposte contre le Covid-19 qui manque de transparence pour Julien Niaré, membre fondateur de l'Association des personnes handicapées du Gabon.
Ça devait être bien décentralisé pour que le gouvernement, avant de prendre une décision, soit au fait de des réalités que les gens vivent.
Quoi qu'il en soit, les opérateurs économiques, tous secteurs confondus, accueillent avec satisfaction la reprise progressive de leurs activités. Omourut est restauratrice.
On était étouffés, on était déjà asphyxiés, on était presque mourants. Donc c'est un grand soulagement.
Emilienne Moussounda, institutrice, ne se plaint pas des restrictions liées au Covid.
C'est une très bonne chose parce que les opérateurs économiques se plaignent déjà. On ne peut pas aller au restaurant, on est obligé de rentrer tôt le soir.
L'ensemble des mesures visant à briser la chaîne de contamination au virus était à la limite du supportable dans bien de situations. Le témoignage de Gabriel Ndan, fonctionnaire au ministère des Finances.
Ça n'a pas été facile de s'adapter au nouveau rythme de vie, au nouvel environnement. On espère que les choses iront pour le mieux.
Vous vous êtes déjà fait vacciner?
Négatif. Je continue toujours dans les tests de routine parce que c'est mon choix. Je préfère ne pas me faire vacciner pour le moment.
Le gouvernement continue d'insister sur le bien fondé de la campagne de vaccination en cours dans le pays. Docteur Guy Patrick Obiangdan, ministre gabonais de la Santé.
Lorsque le gouvernement incite la population à se faire vacciner, parce que son objectif, c'est de pouvoir éradiquer la pandémie contre la Covid-19 et qu'il existe un lien direct entre le taux de personnes vaccinées et la diminution du nombre de personnes contaminées par la Covid-19.
Plus de 14 000 personnes ont déjà reçu leur première dose de vaccin depuis le début de la campagne lancée en mars dernier par le gouvernement qui affichait un objectif de 50 000 personnes en deux phases qui semble encore loin des prévisions officielles. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
République du Congo, des organisations de la société civile ont entamé à Brazzaville une campagne d'affichage des portraits des activistes des droits de l'homme détenus en prison en vue d'obtenir leur libération. Les ONG estiment que cette campagne pourra attirer l'attention des autorités sur leurs collègues en prison. Les détails avec notre correspondant Arsène Séverin.
Après Wenze et Mongali, les quartiers de Brazzaville, les activistes du mouvement Le Ras-le-Bol sont au château d'eau de Makelikele pour placarder quelques affiches. Il s'agit des portraits des activistes citoyens enfermés depuis des mois. Bertrand Meignet, qui conduit l'équipe sur le terrain, explique cette campagne.
Nous avons depuis le 11 mars dans nos rangs des gens qui ont été pris par la police. Il s'agit de Chris Dongui et Alex Zabana. Mais à la suite, il y a eu d'autres personnes qui ont aussi été arrêtées. Et depuis là, nous sentons une petite nonchalance de la justice. C'est pourquoi nous avons décidé d'alerter l'opinion nationale et internationale pour que la procédure soit accélérée et qu'ils soient enfin libérés.
Un autre activiste estime que leurs collègues arrêtés n'ont pas leur place en prison et les autorités doivent les libérer.
Voilà, parce qu'on ne peut pas comprendre que le PCT viole systématiquement leur propre constitution et ceux qui respectent la constitution ont les mains en prison. Donc nous espérons qu'ils seront libérés d'ici là.
La campagne lancée la semaine dernière vise à sensibiliser l'opinion sur l'existence de ces prisonniers un peu particuliers. La campagne devait se poursuivre dans les autres villes du Congo. Rock Eloge Nzobo, coordonnateur national du CDHD, dit ici jusqu'où ils peuvent aller si ces activistes n'étaient pas libérés.
Donc nous allons commencer par cette campagne d'affichage et nous allons aussi faire une campagne médiatique. Et si possible, nous allons saisir tous les mécanismes africains et onusiens des systèmes des Nations Unies pour que nous puissions obtenir leur libération immédiate et sans condition.
Près d'une dizaine d'activistes sont concernés par cette campagne, mais les plus en vue restent Alexandre Nzabana Ibaka et Chris Ndongi. Les ONG profitent certainement de l'installation du nouveau Premier ministre Anatole Koliné-Makosso et son gouvernement pour faire passer leur plaidoyer. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi.